game.
Vous êtes dans la game avec Ben Roger, Greg Langteau et surtout R2D2.
R2D2 qui fait un sacré travail en ce moment.
Oui, pas le choix. Et je peux te dire que R2D2 vient tout juste comme moi de commencer son horaire d'été. C'est-à-dire que lui, il va être dans le jus pas à peu près. Olivier Brett, comment ça va, mon ami?
Ça va franchement inquiet parce que pour ceux qui connaissent intimement R2D2, pas certain qu'il y a un autre été en lui. C'est...
M'en dire comme toi, s'il passe à travers cet été, il va rendre l'âme quelque part en septembre.
M'a tassé ma grosse face, vous pouvez le voir sur le YouTube derrière. Il y a d'ailleurs un chandail, c'est marqué R2D2.
Ouais, aux couleurs LGBTQ. Là. Il n'y en a pas de problème, R2D2.
Je pense que pour la rentrée, on pourrait lui faire une procession funéraire, en espérant qu'on n'ait jamais besoin de lui dans le futur. C'est un énorme succès pour tout le monde dans la base.
Une maudite chance qu'on a R2D2. Puis les gens qui se demandent de quel maudit niaiseron on est en train de parler, qui découvrent, mettons, BPM Sport, R2D2, c'est notre climatiseur. Parce qu'ici, au 200 Laurier Ouest, il n'y a pas de clim. Alors, quand il fait chaud en temps, alors R2D2 vient à la rescousse nous propulser un peu d'air frais.
Même au mois d'avril, je le partais pendant un week-end. C'est aussitôt qu'il y a un peu de soleil dans la vitre, là, c'est incroyable. C'est beau voir la rue Laurier, les gens qui sont heureux, qui mangent des salades qui sont délicieuses, mais un petit peu trop dispendieuses.
Des salades où il faut que tu hypothèques le chalet là, pour en consommer une.
Oui, j'en ai acheté deux cette semaine. Je te dirais, je vais manger du beurre de peanut pour le restant de la semaine.
Même ça, ça se donne plus.
Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Comment ça va, Ali?
Hey, les gars, ça va super bien. Juste avant, petite précision, j'ai écouté votre entretien avec Johan avant la pause. Le caméraman dont tu parlais tout à l'heure, Greg, est-ce qu'on parle bien de Stéphane Écube?
Je le connais sous le nom de Stéphane, mais je pense qu'il y en a deux, Stéphane.
OK, ben je vais te raconter un petit peu parce que tu parlais des travailleurs de l'ombre, puis je pense que c'est important de le souligner. C'est un truc qu'on prend, puis même nous, là, qui pouvons parfois travailler à la télé, prenons pour acquis. Stéphane Écube, c'est un des caméramans à RDS. Puis je suis allé à mon premier camp d'entraînement sur place du CF Montréal l'hiver dernier. Pas celui qui vient tout juste de passer en 2025, mais c'était en 2024 à Orlando. Puis, tu sais, ces gens-là qui nous offrent des images, que ce soit pour des reportages, parfois ça peut être utilisé pour des documentaires au 5 à 7 RDS, ou à Sport 30. Stéphane avait travaillé là, pendant des jours, des heures et des heures par jour. Puis à un moment donné, on lui dit, on a fait le tour des commandes. Tu dis, donne-moi du Samuel Piette, prends-moi-en pour une ou deux minutes, des images tout seul, des images avec des coéquipiers. Puis là, tu demandes Gabriel Gervais, tu demandes le coach, etc. Tu passes sans cesse des commandes. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as fait le tour de tes commandes. Tu te retournes puis tu te dis, Steph, regarde, c'est correct. Merci, tu peux te reposer. Deux minutes plus tard, on se retourne. Écoute, il était installé comme un sniper à la hauteur du gazon avec sa caméra pour une shot particulière où tu voyais les ballons en avant-plan puis les joueurs en arrière-plan qui étaient en train de se donner des high-fives. Travailler avec des gars là qui ont à ce point-là à cœur le travail qu'ils font, c'est extraordinaire. Puis je voulais juste lever mon chapeau à Steph à RDS.
Ben écoute, à tous les caméramans qui nous écoutent, qui voyagent, comme tu dis, soit pour le CF Montréal, là pour le golf avec Yohan, pour que ce soit s'en aller n'importe où, tu sais, dans la Ligue nationale, de voyager tout cet équipement-là, c'est pas facile, c'est des longs jours de travail puis de voyagement. On plaint pas personne, tout le monde choisit le travail, c'est des gars passionnés, comme tu le dis, mais pas facile, font ça dans l'ombre. Alors, si vous nous écoutez présentement, on vous lève notre chapeau que je pense que j'ai pas vu souvent un lien avec un chapeau sur la tête, puis j'en ai pas en ce moment, mais on vous le lève pareil.
Regarde, on va faire autre chose là, on va leur lever, s'il y en a d'entre eux qui nous écoutent et qui ont travaillé au Stade Saputo depuis le début de l'année, on va leur lever notre poncho à place, parce que c'est pas mal ce qu'ils ont porté toute l'année jusqu'ici.
Tu fais bien de le nommer. Parlant du Stade Saputo, il y avait un gros match là-bas, puis c'était pas le CF Montréal qui jouait hier.
Non, l'équipe nationale féminine du Canada, quelques jours après un match à Ottawa, était de passage en ville pour affronter Haïti. Il y a des moments où tu te demandais si tu jouais à Port-au-Prince ou dans Hochelaga-Maisonneuve, parce que, écoute, la quantité de supporters d'Haïti qui étaient là, c'était incroyable. Ça montre quand même à quel point, hein, quand tu trouves une corde sensible de la fabrique montréalaise, je vais l'appeler comme ça, t'es capable de faire déplacer du monde, t'es capable de faire toute une ambiance. Puis c'est ce qu'on a eu hier dans un match qui a été remporté 3-1 par le Canada avec une grosse contribution québécoise à travers tout ça. Entre autres, un doublé d'Evelyne Vien. c'est tellement le fun. Après des années, pour pas dire des décennies, à se demander si Montréal pourrait un jour avoir sa place dans la réflexion, pas dans les matchs en tant que tels, puis se dire quand est-ce que le prochain s'en vient. Parce que là, dans la foulée de la Coupe du monde masculine l'an prochain, il va y avoir des matchs à Montréal. Ça a été promis. Mais il fut un temps où tu te demandais pas quand était le prochain. Tu te demandais s'il allait avoir un prochain match à Montréal, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Puis hier, c'est un autre exemple des succès que ça peut donner d'avoir un match international au Stade Saputo.
Certainement. Maintenant, revenons vers le CF Montréal. Marco Donadel, est-ce qu'on le confirme comme entraîneur-chef ou non? C'est à quelle heure qu'on va commencer à penser à ça? Et encore une fois, je peux pas croire ça fait... Je pense que depuis que j'ai le plaisir d'être en onde, que je dis que ce serait le fun d'avoir de la stabilité comme entraîneur-chef pour le CF Montréal.
Moi, je pense que la conversation d'entraîneur-chef, de stabilité chez l'entraîneur-chef, c'est de l'histoire du passé, dans le sens où on a tellement été traumatisé par une porte tournante d'entraîneur qu'on se dit que avoir le même gars pendant 10 ans, ça réglerait tout. Ouais, mais ils se disent ça partout sur la planète. Ils se disent ça partout en MLS. Puis il y en a très peu des entraîneurs qui vont au-delà de 2-3 ans de règne. La moyenne, là, c'est à peu près ça. 2 ans, 2 ans et demi. Maintenant, si ton effectif change ou doit changer à toutes les fois que tu changes ton coach, là, tu as un sérieux problème. Puis c'est le malheureux constat qu'on fait depuis l'arrivée de Marco Donadel. Il a joué 12 matchs de MLS jusqu'à maintenant. Il y a une victoire. Laurent Courtois en a joué 5. Il n'y en avait aucune. Mais le plus inquiétant, c'est de voir le constat que Donadel fait d'une équipe qui avait été construite pour Laurent Courtois. Il est en train de dire quoi? On n'a pas de milieu offensif, pourtant des chandails de milieu offensif, si tu me permets de le présenter comme ça. Il y en a 3, 4, 6, 5 dans l'équipe. Il n'y en a pas qui font l'affaire, et je le comprends. Il n'y en a pas qui font l'affaire de Marco Donadel. Il n'y a pas d'ailier gauche non plus. Donc, c'est ça qui devient inquiétant. Après, pour répondre à ta question, on a eu la conversation lundi au fond des filets avec Frédéric Laure. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique si vous ne l'avez pas déjà écouté. L'autre question qu'il faut peut-être se poser avant, on le re-signe-tu ou est-ce qu'on le signe avec une étiquette permanente d'entraîneur-chef, c'est lui, y a-tu envie? Tu sais, parce que toi, là, Greg, cette équipe-là, telle qu'elle est aujourd'hui, puis je le sais qu'il y a comme des semi-promesses qui ont été faites pour l'été, j'ai très, très hâte de voir à quoi vont ressembler les mouvements, les gars qui vont quitter, mais surtout les signatures du mercato estival, mais signerais-tu en bas de la feuille pour dire « Moi, je m'engage à mettre mon nom sur cette équipe-là pour les 2 ou 3 prochaines années? »
T'as deux options là-dedans. Tu te dis, écoute, je veux dire, est-ce que tu peux refuser un poste d'entraîneur-chef dans une ligue d'envergure comme la MLS?
T'sais, moi, je pense que Marco, c'est tellement une bonne question, puis on a 2 cas de figure, 2 réponses différentes. Laurent Courtois pouvait pas.
Il a toujours bien accepté pour s'en venir par intérim. Il a accepté. Est-ce qu'il savait dans quoi il s'embarquait? Puis là, il se dit, oh boy, pas sûr, j'ai le goût. Mais il a quand même. Il n'a pas déménagé sa famille ici également?
Sa famille est supposée venir cet été. Mais souviens-toi, tout ça était pour un plan là, beaucoup plus tranquille que ça. Il s'en venait comme adjoint. Il s'en venait pas comme entraîneur-chef qui est obligé de répondre 52 fois par semaine aux médias en anglais, au français, quand c'est pas en espagnol sur Apple TV. J'exagère sur le dernier cas de figure, mais j'exagère à pas peine. Tant que ça. Tu sais, lui, il est rendu que sa job à temps plein, c'est autre tâche connexe là, qu'il avait dans son son contrat initial. Puis, il y a rien de pas correct là-dedans. C'est juste que, moi, je pense que depuis une semaine ou deux, ce que j'entends du discours de cet entraîneur-là, c'est moi, je suis là pour aider. Je suis là pour remettre le train sur les rails. Puis, je pense qu'il y a vraiment à cœur que ça fonctionne. Mais après, si on est pour s'engager à plus long terme, je pense que lui aussi va vouloir des garanties. Ou lui va vouloir, si c'est pas être impliqué dans les plans et le projet, au moins les connaître dans le détail pour être capable de dire « oui, ça m'intéresse » ou « vous savez quoi, donnez ça à quelqu'un d'autre qui va apprécier davantage l'opportunité ». Moi, il m'intéresse beaucoup, beaucoup comme profil. Mais je sens un gars qui va pas signer en blanc n'importe quoi. Je finis avec un exemple, Jules Guéguen, qui a été le préparateur physique du CF Montréal, qui est maintenant le préparateur physique du Crew de Columbus. Jules, quand Thierry Henry l'a appelé pour savoir « veux-tu être mon préparateur physique? », il a dit « ben j'aimerais ça te rencontrer pour que tu me convainques d'être ton préparateur physique. » Hey, c'est tout le monde à l'envers. C'est Thierry Henry qui t'offre une job chez les professionnels. Jules, à ce moment-là, était préparateur physique, mais de l'académie, là, c'était un nobody. Mais c'était un nobody avec des convictions, c'est un nobody qui savait ce qu'il valait, puis qui avait des ententes pour l'environnement de travail que tu allais lui proposer, pas dans lequel lui allait tout faire pour se retrouver. Je sais pas si c'est exactement le même scénario pour Marco Donadel, mais est-ce qu'il a absolument besoin de cette job-là dans n'importe quelle condition? Je pense que la réponse, c'est non. Puis tu sais quoi? C'est probablement pas une mauvaise chose. Ça met un petit peu de pression sur tout le monde dans ce dossier-là.
Ouais, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec Jules Guéguen, qui est un chic type d'ailleurs que tu m'as présenté,
tout à
Olivier.
Fait.
C'est vraiment sérieux quand je t'appelle Olivier. Mais, tu sais, préparateur physique dans une organisation, entraîneur, tu sais, un poste d'entraîneur-chef, là. Je pense qu'il y a une façon de travailler, de dire, écoutez, là, c'est peut-être pas optimal, là, donc voici ce que, tu sais, pas ce que je mets comme condition, mais ce qui pourrait fonctionner pour, tu sais, tu mets tes termes peut-être d'une certaine façon avant
absolument
d'accepter l'emploi à temps plein, tu sais, puis comme ça, si ça fonctionne pas, il y a une autre organisation que t'appelles, tu dis, regardez, là, voici ce qui était mon plan, là. Et ça n'a pas été exécuté, à part ce que moi j'ai fait de ce côté-là. Je sais pas. On jase, là.
Non, mais tu as tout à fait raison, mais t'imagines le flou artistique si ça part de côté. En même temps, si ça fonctionne, c'est extraordinaire parce que regarde ce qui est arrivé avec Wilfried Nancy. Lui, il a pris le pari, puis ça a fonctionné.
Ben oui,
là,
c'est ça.
T'es ailleurs parce que depuis 2022, les autres équipes en MLS ont avancé puis ont investi à vitesse grand V. C'est plus un copier-coller de « on a juste à refaire ce qui a été fait il y a 3-4 ans avec Wilfried Nancy puis ça va se remettre à bien se passer. » Puis c'est là où j'ai hâte de voir comment Donadel va se positionner aux yeux du club et comment le club va se positionner aux yeux de Donadel qui, en passant, a le vestiaire derrière lui. Selon ce que je vois, ce que je constate, il n'y a personne qui a abandonné. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine portion du pouvoir de négociation qui est dans la cour de Donadel.
Vous avez un très beau podcast, très, très bon, vous autres, toi et Fred Laure, qui s'appelle Au fond des filets, qui est sur la commission athlétique, qui est comme un peu notre petit frère, quelque chose comme ça. Bref, et vous avez toujours des invités. Les entretiens sont incroyables. Qui est votre prochain invité à Au fond des filets?
Je me suis entretenu parce que les lundis, je fais des longs retours ou des longues projections, principalement sur ce qui se passe dans l'univers du CF Montréal. Les jeudis, par contre, j'ai l'habitude de m'entretenir avec des invités super intéressants, tout aussi variés les uns que les autres. Puis demain, c'est Charlotte Bilbeau, l'ancienne capitaine de l'équipe de France. Et c'est quand même fou, là.
Wow.
Aux Roses de Montréal, parce qu'elle joue milieu de terrain, Charlotte, pour les Roses de Montréal. Aux Roses de Montréal, qui est une équipe d'expansion, une ligue d'expansion, t'as deux ex-capitaines de l'équipe de France. T'imagines-tu le savoir, la richesse, les anecdotes que t'as avec ces gens-là? La première, c'était Marinette Pichon, qui est directrice sportive des Roses, qui est celle, d'ailleurs, qui a fait venir Charlotte Bilbeau, qui a un paquet de belles histoires à nous raconter. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec elle hier pour un petit peu plus d'une heure, si je ne me trompe pas. Donc ça va être disponible demain, jeudi, à 17h, là non plus, si je me trompe pas, sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Allez faire un tour, là. Puis surtout, si vous avez ça s'applique aux gars aussi, mais si vous avez des filles qui ont joué au soccer, qui jouent au soccer, ou qui font du sport, une activité quelconque, puis ils veulent être inspirés, écoutez mon entrevue avec Charlotte Bilbeau, ça sort demain sur la Commission athlétique.
On manque pas ça. Merci, mon cher Oli, puis j'ai confirmé avec Yoann Benson, on parlait, le caméraman, c'est Stéphane Mengo. Est un gars absolument formidable. Alors, on le salue. Donc, on confirme qu'il y a deux Stéphane qui travaillent à RDS comme caméraman et qui font tout un travail.
Merci, Oli.
On fera une autre chronique puis on apportera un paquet de précisions sur les caméramans de RDS qui ont des histoires plus croustillantes les unes que les autres. Je vous laisse là-dessus. Salut.
Salut mon vieux.